Bonsoir à toutes et à tous, mes très chers amis de Radio Merguez & Co. Quel plaisir de vous retrouver ce soir pour la 300e émission de notre site de podcast. Bienvenue à vous. Merci à tous ceux qui seront présents sur le live. Merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Merci de votre fidélité. 300e émission, c'est pas rien, ça se fête. Et aujourd'hui, un casting exceptionnel autour de moi, bien sûr, parce que je ne pourrais faire cette émission tout seul. On va débriefer aujourd'hui le Tour des Flandres. Magnifique course, on va vous spoiler, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Remporté par Mathieu Van Der Poel. Vous verrez les résultats de la semaine affichés juste ici. Mais avant, je vais vous montrer le programme. Donc, il sera affiché juste là. Voilà, vous pouvez voir le programme. Et on va accueillir nos chroniqueurs. En premier, bien évidemment, je vais commencer par le grand comeback de mon collaborateur préféré. Je vais bien sûr parler de Monsieur Rulio Lofeno. Bonsoir à toi, mon Rulio. Ah, petit problème pour Rulio, il va juste revenir tout de suite. Hop. Bonsoir à toi, mon Rulio.
Je crois que je suis mieux reparti pour mieux revenir.
Il y a eu un petit cafouillage. Comment ça va, mon Rulio ?
Vous entendez bien, vous me voyez bien.
On t'entend très bien. Comment que c'est depuis la dernière fois ?
Ben, ça fait longtemps et je suis ultra ravi de pouvoir revenir avec vous, regriller les merguez et reparler cyclisme parce que c'est notre passion, quoi. C'est un réel. Ça va très bien, je vous remercie beaucoup.
Exactement, la passion qui revient, qui reprend du service pour notre co-animateur préféré, hein, Rulio, qui gère avec moi Radio Merguez & Co. Barbecue Vélo. Et c'est un plaisir de le retrouver aujourd'hui. Quel retour pour la 300e émission, franchement.
Ouais. C'est beau, hein. Avant l'émission, c'est magnifique, quoi. 300 barbecues, 300 heures, beaucoup plus que 300 heures, mais des débats
à barbecue foot, hein,
tout en longueur, tout en passion. voilà, c'est aussi des moments dans lesquels on peut se remémorer tous ces moments passés ensemble, dans la tristesse, dans la joie, hein, donc plein d'émotions différentes. C'est beau,
oui, effectivement, c'est très beau. Et quelque chose d'encore plus beau que ton retour. Enfin, bien sûr, tu rayonnes, mon Rulio. Mais nous avons un nouveau chroniqueur, un nouveau merguezeur qui vient faire son entrée. Je veux bien sûr parler d'Antoine. Bonsoir, Antoine.
Bonsoir. J'espère que tout le monde, ça va. Première émission ici. Très content de vous rejoindre, la team.
Ouais, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous, mon cher Antoine.
Alors, merci à vous.
Bah, c'est un plaisir.
Bienvenue, mon cher Antoine, dans la grande famille de Radio Merguez & Co.
Merci beaucoup.
Je vais te laisser te présenter un petit peu parce que tu n'es pas inconnu du monde du vélo et puis d'Internet. Tu as une chaîne YouTube, un compte Instagram assez bien rempli. Tu peux nous en parler un petit peu ?
Ouais, bah alors du coup, grand passionné de vélo, je fais quelques vidéos. Alors j'ai fait une longue pause là, j'ai repris quelques jours pour sortir la preview du Tour des Flandres. Et puis à côté de ça, donc comme tu l'as dit, Elio, j'ai un compte Instagram où je mets quelques petites vidéos, ça tourne plutôt bien, on va dire. Donc voilà, grand passionné de vélo depuis mon enfance, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour débriefer de ce Tour des Flandres assez incroyable, on peut le dire.
Ouais, c'est vachement cool de t'avoir parmi nous.
Ce qu'on peut dire, mon Elio, c'est que il a déjà notre ami Antoine un appareil photo, une caméra merguez, hein, parce qu'il est penché à 150 degrés là. C'est déjà exceptionnel. Il fait une entrée fracassante.
Ouais, c'est clair.
Attends.
Oh, t'inquiète. Ah,
ouais. Ah oui, c'est déjà un petit peu mieux.
Parfait.
Bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir parmi nous.
Moi aussi, super content.
Super heureux d'avoir un nouveau chroniqueur parmi nous. Et tu viens, comme l'a dit mon cher Rulio, agrandir la famille de Barbecue Vélo. Et c'est un plaisir de t'avoir parmi nous.
Merci à vous. Surtout, merci à vous.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, petit à petit, pour cette émission spéciale 300e. le programme. On va commencer par vos impressions à chacun sur ce Tour défendre. On va commencer par vos impressions. Ensuite, on va débriefer dans le détail ce magnifique ronde remporté par Mathieu Van Der Poel, puis se projeter petit à petit vers l'enfer du Nord, vers la reine des classiques, et enfin finir par le débrief du Tour de Catalogne remporté par Tadej Pogacar et se projeter vers l'Itsula Bass Race Country, le Tour du Pays Basque. Eh ben, on va commencer par, par toi, mon Rulio. Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine vélo et de ce Tour des Flandres?
Ah, quelle surprise! Quelle surprise de voir notre MVPD national triompher. Non, mais j'ai comme eu l'impression de voir un film dont je connaissais déjà la fin. Vous savez, regardez un film avec votre pote et puis vous savez déjà ce qui va se passer. Non, c'est le sport, bien évidemment, et le cyclisme, bien sûr. On peut jamais prédire à 100% ce qui va se passer. Hein. On n'a pas des boules de cristal. Il peut toujours se produire des surprises et on n'est jamais certain à 100%. Mais sincèrement, tout le monde s'y attendait, quoi. C'était, ça aurait été, enfin, à part une grosse défaillance inattendue, ben rien ne pouvait empêcher Mathieu Van Der Poel de s'imposer avec brio une nouvelle fois. Mathieu Van Der Poel qui rentre dans l'histoire, hein, parce que il co-détient oui. désormais le nombre de succès sur le Tour des Flandres. Donc non, je trouve que il a parfaitement géré sa course. Son équipe a bien travaillé. Ils ont contrôlé l'échappée. Ils ont réussi aussi à suivre des concurrents qui auraient pu être dangereux quand ils ont essayé de prendre la fuite. Je pense à Mats Pettersen. Et puis finalement, bah, l'ogre est sorti du bois comme il sait si bien le faire dans le Koppenberg, dans la pente, dans les pentes les plus sévères, dans les pourcentages les plus sévères. Et il a fait la différence techniquement, évidemment très très propre. Mais je trouve que voilà le plus fort, tout simplement, a gagné. On a l'impression de se répéter, mais je trouve que c'est le cas. Et je pense aussi que son passé et puis son présent de cyclocrossman a pu véritablement faire la différence dans un Tour des Flandres et dans un Koppenberg notamment, qui était véritablement trempé. Voilà, donc je vais laisser vite la parole à Antoine, hein, mais un Tour des Flandres, voilà, que j'ai trouvé sympa quand même à suivre, avec la deuxième place je trouve chouette de Luca Mazzato et pour la BNB, et puis quand même de l'animation malgré la force logique des choses.
Oui, effectivement, tout ce que tu as dit est juste, hein, mon cher Rulio. Et donc on peut citer bien sûr quelques noms. Alors déjà vainqueur avec le maillot de champion du monde sur le Tour des Flandres, oui. Il faut remonter à Louison Bobet pour la première fois, ensuite Eddy Merckx, et puis bien évidemment le légendaire Tom Bonnen, qui est également co-détenteur du record avec Mathieu Van Der Poel.
Il y avait aussi, je crois, Peter Sagan, hein, qui s'était imposé,
oui,
je crois.
Oui, bien ouais. Vu, Peter Sagan aussi en 2016, qui a remporté le ronde, effectivement. Donc oui, hein, quand même, un sacré Mathieu. Toi, tes impressions, Antoine, sur ce ronde?
Bah, qu'est-ce qu'on a pensé? J'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Hein. Il a été sensationnel. Il est impressionnant en début de saison, hein, parce que c'est vrai que bon, Mathieu Van Der Poel, en début de saison, c'est quand même 4 courses. 2 victoires, le 3 saxo classique et sur le rond des Vlaanderen, donc c'est pas mal quand même, hein. 2e de Cantevelgem, puis 10e de Milan-San Remo, donc c'est quand même un début de saison assez, assez impressionnant de la part du Néerlandais, qui ensuite va s'aligner donc sur Paris-Roubaix. Je pense que sur l'Enfer du Nord, hein, grandissime favori, hein, parce que ben, on ne sait pas si Wout van Aert sera là. Et puis je pense que voilà, si Wout van Aert n'est pas là, il y aura.
Il ne sera pas là, Van Aert, ça c'est sûr.
Il ne sera pas là, mais il ne sera pas là. Donc ben, voilà, je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour rester dans la roue de Mathieu Van Der Poel sur l'Enfer du Nord. Il est impressionnant. Il marche sur l'eau et c'est vrai que là, il a fait une course parfaite. Il est parti tout seul et puis après, il a fait son chemin. Et cinquième monument quand même pour Mathieu Van Der Poel. Donc une course vraiment impressionnante de la part du Néerlandais. Et puis aussi pour revenir hein, sur ce qu'a dit Giulio, c'est vrai que la deuxième place de Luca Mozzato est quand même c'est quand même une très belle nouvelle hein, pour Arca BNB Hotel. C'est quand même une très très belle deuxième place derrière Nils Polite, troisième. Donc c'est bien pour l'équipe bretonne. Et puis alors après peut-être ça on en reviendra plus tard, mais c'est vrai que peut-être on vu le plateau on aurait peut-être pu s'attendre à un petit Valentin Madouas, pourquoi pas sur le podium, et bon on en reviendra plus tard, mais ouais course parfaite de Mathieu Van Der Poel qui a clairement confirmé que en ce moment c'est lui le plus fort sur ce genre de terrain.
Alors oui hein, effectivement tout a été dit, on va continuer sur Mathieu Van Der Poel hein. Gestion de course
juste pour mon Elio, c'est le premier podium sur un monument de l'histoire de l'équipe.
Oui, de Arkea, oui, bien vu.
Ah, première fois.
Ouais.
Oui, oui, oui. Ah,
c'est génial. Ouais. Pour eux, et puis on a une grosse pensée pour Emmanuel Hubert.
Oui, exactement.
Ouais,
quand même. Hein. Et puis cette équipe Arkea BNB Hotel, attention, important de noter, BNB Hotel, ouais. Qui renaît de l'espoir.
Ouais, et puis une équipe qui se développe, hein, Arnaud Démare également, là, qui je pense va faire des choses intéressantes hein, dans cette équipe. Donc non, c'est vraiment une équipe qui est en train de se développer, c'est sympa et tout. Donc ils sont encore à la recherche du leader. Ils avaient Nairo Quintana, bon il est parti, il faudra essayer de le remplacer. Mais ouais, une belle équipe, hein, franchement, c'est vraiment intéressant à suivre tout ça.
Oui, effectivement. Alors continuons sur Mathieu Van Der Poel, gestion de course parfaite, rien à redire. Rien à redire. Il a été impérial. Il a géré parfaitement cette course et pourtant il y avait de quoi s'affoler. Les nombreuses attaques de tous les favoris. Alors on va penser à Mats Pedersen, le valeureux Mats Pedersen, qui a tout fait pour déjouer les plans de Mathieu Van Der Poel. Il y avait un seul mot aujourd'hui, anticipation pour tous les favoris. Matteo Jorgensen a tenté aussi sa chance. Tous ont tenté d'attaquer Mathieu Van Der Poel, même Julien Alaphilippe, en début de course. Hein, grosse pensée à lui qui a tenté du Julien, qui malheureusement n'a pas pu confirmer sa forme. Et donc Mathieu Van Der Poel solide. Franchement, sur sa gestion de course, qu'est-ce que vous en avez pensé, les gars? Parce que moi, je suis impressionné. Il a pas paniqué. Pourtant, il y avait de quoi. Par un moment donné, il avait des coéquipiers. Il n'en avait plus. C'est quand même, franchement, 29 ans. On est peut-être au prime de Mathieu Van Der Poel. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah oui, clairement. Ouais, pour moi, oui. Là, on est vraiment au prime de Mathieu Van Der Poel. Hein. Il est stratosphérique, tout simplement. Et il a attaqué, puis après il n'y a personne dans sa roue. Alors c'est là, j'en ai parlé sur le groupe là. Mais c'est vrai que ce passage, ça a été le seul avec Jorgensen à rester sur son vélo. Hein. C'est là où il a fait la différence. Bah, c'est là où il a montré qu'il était le plus fort, hein, clairement. C'était le seul à rester sur son vélo. Pour moi, c'est le garçon le plus habile hein, dans le peloton, clairement. Tout en puissance, il est passé. Puis alors que tout le monde était fini clairement la côte à pied. Et lui, Jorgensen, bon, je crois, ont été les deux seuls avec Pedersen aussi, je crois, qui sont restés sur leur vélo. Mais ça a été une course complètement dingue. Mais bon, le suspense au début, il y était. Puis après, on a compris tout de suite qui était le plus fort.
Rulio.
Ouais, je suis complètement d'accord avec Antoine. J'ai trouvé effectivement sa gestion de course parfaite, quoi. Évidemment qu'il était, le plus fort. Intrinsèquement et puis voilà, faut pas oublier que justement le fait que l'on pense que ses succès et ses coups de force sont naturels, c'est quand même le fruit d'un... Alors ok, bien évidemment il y a du naturel, hein, il y a des gènes bien sûr venant de toute sa grande famille illustre dans le monde du vélo, mais il y a beaucoup de travail aussi. Puis
Adrie Van Der Poel, lui aussi vainqueur du Tour des Flandres.
Oui. Sacrée famille.
Carrément. Et puis, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et puis, je pense que la confiance qu'il accumule depuis le début de saison, bah, justement, ça le libère et ça lui permet aussi, même si évidemment il en est capable, il est au-dessus du lot, ça lui permet aussi d'aborder avec un peu plus de confiance et un peu plus de légèreté ce genre d'événement. Et bah ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. J'ai trouvé un Mathieu vraiment serein, qui a réalisé tout simplement encore une fois un coup de force. Et bah, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression de se répéter parce que bah, les coups de force qu'on attend à chaque fois, le moment où les coureurs vont attaquer lors des derniers monuments, Pogacar, Van Aert, Van Der Poel, bah voilà, on sait que ça va arriver à un moment et tout se produit en fait. Donc c'est ça qui est très très fort aussi, c'est que c'est effectivement une victoire très attendue, mais il faut pas oublier qu'il faut le faire quoi quand même, quoi, parce qu'il y a cette pression
Puis là, il a attaqué à 45 km de
Voilà,
l'arrivée,
tout le
quoi.
monde sait qu'il va attaquer. Tout le monde sait qu'il va attaquer. Et je veux dire, quand on est, même si on est Mathieu Van Der Poel et qu'on gère très bien la pression, bah, il faut quand même le faire, quoi. Et donc bravo à lui, bravo à toute son équipe. Et non, non, j'ai trouvé. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Alors, je dis ça tout à fait humblement. Hein, je ne suis pas coureur professionnel ni directeur sportif d'équipe, tout ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas que justement le fait, comme tu l'as si bien dit, je trouvais Léo, le fait de vouloir être dans l'anticipation par rapport aux adversaires de Mathieu Van Der Poel, est-ce qu'ils n'ont pas été un petit peu trop justement dans
Et
l'anticipation?
ben, et ben on va en parler. Tu
Qu'est-ce que
tu
vous en
fais d'une
pensez?
pierre deux coups. Tu fais d'une pierre deux coups. On va en parler tout de suite de cette solution annoncée qui était l'anticipation. Je te laisse terminer.
Non, non, c'était justement, bah, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous pensez pas que certains coureurs se sont un petit peu grillés en essayant de trop anticiper?
Alors oui, effectivement,
Ben,
on va en parler
ouais.
tout de suite. Donc, de nombreux adversaires ont tenté d'attaquer Mathieu Van Der Poel tôt, trop tôt. Et moi, en tout cas,
Ah, je vous pose la question, hein, je sais pas.
l'exemple le plus frappant qui m'a marqué lors de ce Tour des Flandres, c'est Mats Pedersen qui, à 90 km de l'arrivée, se lance dans un espèce de numéro avec Jenny Vermeersch dans sa roue, même équipe que Van Der Poel, Jenny Vermeersch. Sur du plat, sachant, voilà, il y a bien sûr, il y avait les monts pavés qui arrivaient après, mais moi je voyais pas l'intérêt. Pedersen, en tout cas, il avait l'air vachement fort. En plus, après l'attaque de Mathieu Van Der Poel, comme tu l'as dit, Antoine, juste avant, c'était le seul avec Jorgensen qui est resté sur son vélo. Donc, moi je pense que l'anticipation, ça aurait été une bonne solution, mais. Trop tôt, beaucoup trop
Ah
tôt,
oui,
beaucoup trop
complètement.
tôt pour tous ces coureurs, et ça a été inévitable. À
Et...
partir de 60 km de l'arrivée, là, ça aurait été peut-être un peu plus judicieux, mais là, comme ça, 90, 110 km de l'arrivée lors de la prise en tête
Ouais.
de François, on avait déjà vu que certains coureurs tentaient d'anticiper. Est-ce qu'il y avait rien d'autre à faire pour toi, Antoine, ou c'était la bonne solution, ou trop
Non,
tôt?
mais c'est sûr que, bah, en fait, la vraie question, c'est comment le battre. Alors, c'est sûr que, bah, faut trouver des techniques pour ça, mais je pense que 90 km, pour moi, c'était beaucoup trop loin. Hein. Voilà, faut aller, je pense, autour des 50, 40 km, pourquoi pas, mais 90 km, c'est beaucoup trop loin. D'ailleurs, si on regarde, hein, Matteo Jorgensen et Mats Pedersen, les deux figurent même pas dans le top 10. Donc, bon,
Oui,
ça montre
exactement.
aussi que je pense qu'ils ont,
Mais
ouais, ils ont explosé
bah.
complètement. Et puis, oui, non, mais ils ont essayé, ils ont tenté, mais c'est sûr que, bah, pour trouver les moyens pour contrer Mathieu Van Der Poel, surtout en ce moment, c'est pas facile. Mais je pense que 90 km, c'était trop loin. Surtout qu'en plus, si on regarde un peu la Lidl Trek, il y a plusieurs cartes. Hein, Tom Skuens, qui aujourd'hui termine 10e, aurait pu aussi tenter quelque chose. Mais je pense que Mats Pedersen aurait dû rester dans la roue de Van Der Poel et puis tenter des autres cartes côté Lidl Trek avec, pourquoi pas, bah, comme un Tom Skuens.
Ouais, exactement, t'as entièrement raison. Et puis parlons-en, alors tu as parlé de Jorgensen, parlons de la stratégie des Visma Lease-A-Bike. Moi, il y a quelque chose qui m'a perturbé dans cette stratégie, c'est que tour à tour, ils ont attaqué. Alors il y avait Benoot, il y avait Jorgensen, ensuite on a eu aussi Van Dijk. franchement, est-ce qu'ils n'auraient pas dû se préserver plutôt que d'attaquer chacun leur tour comme ça, sans aucune garantie de résultat? Et ça les a cramés. On a bien vu. La réflexion a été faite lors de la prise d'antenne. On ne savait pas pour qui on roulait côté Visma. Qu'est-ce que t'en penses, mon Rulio?
Le truc, c'est que j'ai été un petit peu surpris que. Après, c'est des choses qui arrivent, c'est des faits de course. Même si Jorgensen est dans une super forme, il y a peut-être eu une petite baisse de régime. J'étais surpris qu'il lâche quand même aussi vite. Mais après, je voulais. Je voulais un petit peu parler de Pedersen, parce que moi j'étais quand même bluffé par le fait que voilà, il a essayé d'attaquer, mais finalement je trouve que quand même il va assez loin dans la course et il reste quand même au contact assez longtemps, parce que quand même après voilà, il nous l'a prouvé, hein, ça date pas d'aujourd'hui, que c'est quelqu'un qui est capable de bien passer les côtes et qui est capable de prendre un petit peu l'altitude, mais moi je suis quand même toujours impressionné par parce qu'il arrive à faire.
Oui, tu as entièrement raison. Alors, d'autant plus, on se pose la question, malgré sa chute, on a vu qu'il a tenté d'anticiper, même s'il n'aurait pas pu aller chercher la gagne, pourquoi s'être autant fatigué à se lancer dans un numéro comme ça, alors qu'il aurait très bien pu jouer le podium s'il était resté dans les
roues? Oui, complètement.
Surtout, je ne sais pas, Antoine, ce que tu en penses, mais... Surtout de se lancer avec un coéquipier de.
Et en plus, oui.
Merkel, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a des choix comme ça. Et puis, pour revenir sur la Jumbo, le plus fort aujourd'hui, c'est Thys Benoot, 15e. C'est pas un résultat aussi. Voilà, pour la Jumbo Lise Bike, bon, c'est correct, mais sans plus, quoi. 15e, ouais.
Bah, surtout que la Jumbo, c'est. Enfin, la Visma Lise Bike, c'est une équipe qui est taillée pour les classiques. Alors, il n'y avait pas Van Aert, il n'y avait pas Laporte, ok, pas de problème, mais il y avait quand même du monde, quoi.
Je suis d'accord,
entièrement d'accord. Benoot, quand même.
Quoi. Non, ils ont des coureurs, de bons coureurs, hein, ça c'est sûr, hein, mais c'est vrai que perdre tous tes favoris désignés en début de saison pour ce grand monument, c'est un coup dur, quoi, derrière la tête, quoi.
Ah, vraiment. C'est sûr.
Oui, c'est vrai. Donc, on va revenir un petit peu aussi sur le podium de ce Tour des Flandres.
Très intéressant. Là,
autant pour la gagne, il n'y a pas eu de suspense, mais alors le podium, jusqu'au bout, on s'est demandé, mais qui va finir sur le podium? Donc, on va vous le faire dans l'ordre décroissant. Alors, 10e Tom Skunge, 9e Alberto Bettiol, toujours bien placé, le coureur italien. Dylan Teuns, 8e, qui avait tenté avec Alberto Bettiol une échappée pendant 15-20 km et qui ont failli réussir, mais repris dans les 400 derniers mètres. Oliver Nassen, qui revient bien, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau, Nassen. Magnus Sheffield pour Ineos, qui figure quand même pas mal, qui s'en sort pas mal, cette équipe Ineos qui limite la casse. Et puis alors là, le top 5. Antonio Morgado. Alors ça,
alors est-ce qu'il remplace aujourd'hui Yao Almeida dans ton cœur, mon cher.
Franchement, oui,
Antoine. Il faut expliquer à Antoine quand même que Elio est un immense fan de Yao Almeida.
Ah.
Comme ça, il y a quelque chose de surprenant dans la vie. Non, j'ai rien de Yao Almeida.
Antonio Morgado qui finit donc cinquième, alors qu'il, de base, devait jouer le sprint. Les UAE emmenés pour Antonio Morgado, mais il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, mais il est quand même vice-champion du monde espoir et ce n'est pas une surprise de le voir là, Antonio Morgado. Et puis, on a Michael Bjerg qui a fait un taf énorme. Il a été impressionnant, le rouleur danois. Et puis, troisième, Nils Polite. Nils Polite, surprise, je ne sais pas. Mais au point de le voir là, quand même, je ne pensais pas. Alors oui, il a fini, il a réussi, il avait fini deuxième de Paris-Roubaix derrière le grand Philippe Gilbert. En 2019, mais voilà, quand même, grosse performance pour Nick Pulit. Et enfin, Luca Mazzato pour Arkea Samsic. On ne l'a pas vu de toute la course et pourtant, il figure quand même sur le podium. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Antoine, de ce podium et de ce top 10 qui est quand même assez surprenant à noter Matthews a été déclassé pour une vague dans le dernier kilomètre.
Non, mais un top 10 pour moi, complètement inattendu, parce que. Alors, quand même, il faut remarquer quand même que l'équipe UAE fait quand même un sacré tour d'effort. Hein. Troisième place de Nils Polite, quatrième Mikkel Bjerg, cinquième Antonio Morgado, alors qui est quand même le Portugais de 20 ans qui avait terminé deuxième de Le Samin en début de saison. Donc bon, pas inconnu au bataillon, mais pas plus connu que ça. Et très très
bon. Champion du monde espoir derrière Axel Laurence quand
c'est
même.
C'est ça. Donc voilà, donc il est pas quand même inconnu du bataillon, mais 20 ans seulement, donc c'est quand même une sacrée performance. Et puis après, si on regarde un petit peu, Alberto Bettiol toujours présent, Dylan Teuns, belle course hein, du Belge. Oliver Neyssen, septième, qui, comme tu l'as dit, Léo, c'est un retour, parce qu'on n'attendait pas plus que ça aussi. Il a fait sa course, Oliver Neyssen. Manu Sheffield, sixième, et c'est encore une fois, c'est un peu une surprise, parce que pour moi, si on regarde les noms derrière, c'était plus ceux qu'on attendait. Par exemple, si on regarde un Thibaut Benoît, quinzième, Valentin Madouas, seizième, même un Matteo Trentin, un 19e, c'est peut-être plus les noms qu'on attendait. Mats Pedersen, 22e. C'est sûr que
si on peut aller plus loin, on peut voir aussi Ivan Garcia Cortina, 26e.
Exactement. Alors qu'il avait fait quand même Ivan Garcia Cortina qui avait quand même placé une belle attaque, mais qui avait dû s'arrêter, ça avait complètement ruiné sa course. Donc c'est sûr que c'est pas les noms qu'on attendait forcément, mais moi je suis surtout super content pour la formation d'Emmanuel Hubert, la magnifique deuxième place de Luca Mazzato qui a fait la course parfaite, hein, clairement deuxième. Il pouvait pas mieux faire aujourd'hui parce que je pense que Van Der Poel était clairement au-dessus de lui, mais autrement il commence bien l'année, hein, Mazzato. Il a déjà levé les bras cette saison et puis là il fait une belle deuxième place. Et normalement, très très beau début de saison de Luca Mazzato qui est prévu pour Paris-Roubaix. Donc, il devrait participer à Paris-Roubaix. Il faut s'en méfier, l'Italien, parce que il fait quand même un sacré début de saison. Et je me demande, je crois que c'est la meilleure début de saison de sa carrière. Donc, à 26 ans, donc vraiment très intéressant. Et puis à noter que je parlais d'Arnaud Démare pour Arkea BNB Hotel, mais il ne faut pas oublier également Vincenzo Albanese hein, qu'ils ont recruté. Il peut faire des choses aussi très, très intéressantes, donc il faudra voir. Mais un top 10 complètement inattendu, mais avec des beaux noms, il faudra surveiller.
Rulio, un mot sur le podium ?
Ouais, c'est un podium sympathique. Le must en première position, mais derrière l'intouchable, très, très heureux. Très heureux pour Luca Mazzato et pour, comme on l'a dit tous ensemble, la formation d'Emmanuel Hubert. Et puis Nils Polit qui est troisième. Alors, pour moi, c'est pas surprenant, mais c'est vrai que c'est une surprise, entre guillemets, dans la mesure où c'est pas des coureurs dont on parle à tort, hein, parce que je trouve que tout le monde doit être pris au sérieux quand il s'agit d'une course cycliste professionnelle, en plus dans un monument. Mais en tout cas, on pouvait s'attendre à d'autres noms. C'est un garçon qui a déjà fait de super performances dans le vélo et qui est capable de faire ce genre de performances. Donc, très heureux pour Nils Polite. Mazzato qui avait, je vais pas me risquer dans la prononciation du, je vais pas me lancer dans la prononciation du nom, mais qui avait gagné une course belge là déjà cette saison.
Cognitus Black peut-être.
Alors il faut que je retourne sur la page, mais c'était la Bredene Cox Jide Classic. Je suis vraiment désolé parce que je sais pas du tout.
Oui c'est ça oui. Benchimébarche aussi je crois.
Mais qui était apparemment appelée avant la Hansam Classic. Voilà. Elle a lieu dans la Flandre occidentale. Mais enfin bref, c'est super ouais pour pour Mozzato qui fait quand même un super début de saison. Mais non, c'est un top 10 qui respire le vélo, quoi, comme ouais, comme tous les top 10, hein, mais voilà.
Donc ouais, franchement top 10 assez intéressant. Alors on va quand même citer certains noms aussi. Tim Wellens qui était un acteur majeur de la course qui était présent dans le groupe pour tenter de faire le sprint. On peut citer aussi Lawrence Rex qui a été animateur de cette course
et ouais, bien sûr. Et si je peux me permettre, je sais pas si vous avez regardé la course sur les antennes de France Télévisions ou alors sur Eurosport, mais très belle blague d'Alex Pasteur sur Rex, parce que vous savez que Rex est une série aussi, une série policière, je crois.
Exactement, avec le chien.
Voilà, exactement, ouais, voilà. Ouais, et puis il a fait Rex, pour les amateurs de Rex, pour les téléspectateurs de France 3, Rex est à l'arrière. Enfin bref, voilà, blague de merde comme d'habitude.
Oui, oui. Oh non, c'est toujours sympa à entendre, on va dire. Ça fait sourire.
Je parle pas de blagues de merde. Je parle pas d'Alexandre Pasteur. Hein, je parle de les blagues à moi. Hein. Je parle de moi qui parle toujours de choses décalées comme ça. Mais c'est des blagues sympathiques quand même. Toujours sympa de faire un petit débrief de nos super commentateurs.
Ouais, super. Eh bien, maintenant, on va passer au dernier dossier sur ce Tour des Flandres. Les Français, encore à la ramasse. Valentin Madouas, on plaçait énormément d'espoir en lui. On pensait au moins un top 10 pour Valentin Madouas. Ouais. Et on se retrouve avec une 16e place. Julien Alaphilippe qui abandonne la course alors qu'il a été acteur pendant une quarantaine de kilomètres. Ensuite, pour chercher le deuxième Français, il faut monter à la 51e place avec Hugo Page et puis Damien Touzet qui était dans l'échappée matinale. Et puis après, voilà, il faut attendre loin. Bastien Tronchon, Rémi Cavagna, 75e. Est-ce qu'il fallait s'y attendre quand même ou on a le droit d'être déçu?
Je me permets.
Vas-y Antoine, excuse-moi.
Ouais, non, mais alors c'est sûr que quand on regardait le plateau de départ, il y avait Valentin Madouas. Moi, je pense que c'était sur le coureur sur lequel on pouvait miser le plus d'espoir. On pouvait voir aussi un Julien Alaphilippe. Je pense qu'on pouvait espérer quelque chose de sa part. Bon, bah, pas du tout, mais bon, c'est pas.
Après, il avait annoncé que sa forme était moyenne et je trouve
ouais,
que c'est sympa qu'il ait quand même tenté quelques trucs.
Oui, c'est ça. Mais pour moi, s'il y avait vraiment un seul coureur français sur lequel on pouvait avoir des espoirs aujourd'hui, c'est Valentin Madouas, hein, clairement. 16e, ouais, un peu déçu en début de saison. Pas super facile hein, pour Valentin Madouas. Mais c'est vrai que c'est son objectif, hein, clairement, de remporter un jour les Tours des Flandres. Mais je pense qu'elle n'était peut-être pas au meilleur de sa forme, mais c'est sûr que 16e, on attendait un peu plus hein, du français. Je regarde, je sais pas si. Non, je crois que ça allait devant Stéphane Kuhn, donc je crois que c'est le meilleur côté Groupama.
Oui, c'est
donc,
ça.
Ouais, 16e. Ouais, il termine dans les temps d'un Tige Benoît ou d'un Joshua Tarling, mais c'est sûr qu'on attendait plus du français. Alors c'est mon avis, hein, je sais pas ce que tu en penses toi, Giulio, mais voilà.
Mais excusez-moi les gars, je viens de remarquer qu'il y avait deux coureurs que je connais pas, parce que il faut le dire à nos auditeurs auditrices fidèles de Radio Mergazenco et Barbecue Vélo que ces derniers temps, depuis le début de saison, j'ai été à la ramasse au niveau actualité vélo. J'ai regardé ma première course là sur ce Tour des Flandres. J'avais suivi vraiment de loin. Du coup, voilà, je m'aventurerai pas. Je déteste parler de choses que je maîtrise pas à 100%. Donc voilà, je laisserai faire pour les choses, pour les analyses pointues. Je vous laisserai faire les amis. Vous avez été beaucoup plus précis et vous êtes beaucoup plus.
Mais dans le cœur, Julio, il n'y a que toi pour être présent.
Non, mais simplement, du coup, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer sur la présence de Riley Sheehan, je suis désolé si je dis n'importe quoi, et Kamil Maleki, un Américain et un Polonais qui sont 13e et 14e. Alors, je les connaissais pas tous les deux, voilà, c'est leur premier gros résultat. Enfin, j'imagine que c'est peut-être les meilleurs résultats de leur carrière, hein, mais voilà.
Alors pour Riley Sheenan, si je dis pas de bêtises, ben je crois que c'est. Alors Riley Sheenan, il a intégré Israel Premier Tech en 2023.
C'est ça.
Et donc ben je crois que ouais, c'est son premier gros résultat hein, pour lui. Clairement, il avait commencé l'année sur le Tour de la Provence, 6e place pour la deuxième étape, ce qui est pas mauvais, loin de là. Mais 13e place, oui, je crois que c'est son meilleur résultat de sa carrière. 23 ans, américain, il fait 1m82. Donc c'est plutôt un coureur sur les classiques. Il a signé un contrat jusqu'en 2026 côté Israel Premier Tech. Bon,
D'accord.
un coureur à suivre. Il a une victoire dans son palmarès. Donc voilà, c'était lors du Paris Tour Elite. Donc c'est celui qui était stagiaire chez Israel Premier Tech, qui avait remporté donc la course sur Paris Tour Elite et qui ensuite bah, du coup avait été prolongé par Israel Premier Tech parce qu'il avait fait une course de dingue. Il s'est imposé au sprint devant Lewis Askey, Tobias Alenu-Hensen et le Français Joris Delboeuf. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Shinano.
Ok, d'accord, merci. Merci beaucoup. Et puis Kamil Maleki, un Polonais qui finit 14e.
Alors, on va regarder, c'est qui? Alors, Camille Maleki, alors ça, je connais moins le coureur. On va regarder un petit peu. Alors, Camille Maleki, il a 28 ans, ouais, donc un peu plus âgé, polonais. Et ouais, alors lui, c'est pas un coureur plus. Non, non, ouais. Alors lui, c'est clairement sa meilleure place, hein, clairement, parce que je regarde un petit peu ses statistiques. Ouais, c'est pas un garçon très connu. Donc c'est clairement sa meilleure place hein, pour le Polonais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai pas grand-chose à dire sur lui. Il avait commencé son année sur le tour de Visit d'Antalya. Il n'avait pas fait des gros résultats après. Donc ouais, c'est clairement son meilleur résultat. Hein, 14e place du Tour des Flandres. Pour le Polonais, j'ai tout ce que j'ai à dire
Ah, parce que,
sur lui.
alors c'est Wikipédia, hein, c'est pas toujours fiable à 100%, donc ça prend avec des pincettes, mais j'ai vu que il avait été vice-champion de Pologne junior en route en 2014. Il avait fait quand même 6e du Tour de Pologne en 2020, donc c'est quand même une grosse perte. Et simplement, alors je sais pas si c'est des fois Wikipédia, c'est pas de la folie, c'est très merguez quand même, hein, Wikipédia. Hein. On est dans le thème, c'est la 300e. Il faut bien rendre hommage à notre magnifique chaîne de podcast RMC. Mais apparemment, notre ami Kamil Maleki, il a deux grands tours à son actif. C'est le Giro en 2020 et puis la Volta 2 ans plus tard, 2022. Voilà, mon cher Elio.
Et sinon, la performance des Français, mon cher Julio, qu'est-ce que
Oui,
tu en penses?
oui, oui. Et bah, effectivement, ça, c'est toujours triste de voir les Français loin du podium. Voilà, après, enfin, quand on regarde l'écart, c'est pas si loin que ça, mais c'est assez énorme quand même à l'échelle là du vélo. Ben ouais, c'est toujours triste parce qu'on a toujours envie que nos Français brillent. C'est vrai que, alors, j'ai pas du tout suivi le début de saison de Valentin Madouas, mais c'est vrai que c'est un coureur qui a beaucoup de qualité et qui nous a habitués. A quand même de belles performances. C'est quoi? C'est Tour des Flandres où il fait troisième, où il fait podium?
C'est ça, oui, c'est ça, Tour des Flandres, il fait troisième.
C'était l'année passée d'ailleurs.
Non, il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, ok.
Et il a failli jouer la gagne, il était pas loin, franchement.
Eh oui, donc
l'année passée, pour compléter, quand même, il est terminé deuxième hein, d'Estrade de Bianchi, donc c'est pas rien. Cinquième de Liège-Bastogne-Liège l'année passée également. Et là, cette année, il termine 15e d'Estrade de Bianchi, donc ouais, c'est. C'est ouais, c'est bon,
Ouais,
il a quand même fait l'année passée, il a quand même fait une très très grosse saison. Valentin Madouas, 20e du Tour de France, pardon, mais il avait quand même été alors attends, c'était quand qu'il avait terminé en 2022 où il avait fait un Tour de France, ouais, c'était ça, 2022 où il avait fait un Tour de France stratosphérique, 10e du Tour de France tout en aidant David Godu. Il avait fait quand même un très gros Tour de France en 2022, puis 2024. Bon, bah, on verra.
À voir.
Mais pour évoquer le Tour des Flandres des Français. Moi, je trouve que la concurrence est tellement rude, il y a tellement des coureurs stratosphériques,
Ouais, c'est
que
vrai.
c'est très compliqué de se hisser parmi les meilleurs. Et forcément, on peut être déçu, hein, on en attend toujours plus, mais bah, c'est pas méchant de dire ça, hein, je trouve que c'est la vérité, c'est un petit peu leur place. entre guillemets, à nos Français. C'est vrai que c'est triste pour Julien aussi, parce que il nous a tellement habitués à briller, il nous a tellement fait vibrer que bah forcément c'est triste de le voir un petit peu plus loin dans le classement. Mais voilà, il a pas été aidé par les chutes, son âge avance aussi, donc ça peut expliquer, je pense, ses performances un peu moins bonnes. Mais ouais, je suis d'accord avec vous, c'est toujours frustrant parce qu'on a toujours envie que nos Frenchies brillent. Voilà, après vous avez beaucoup plus suivi le début de saison de nos Français que moi, mais après voilà, on va certainement en parler, Lio, je veux pas te prendre de l'avance trop sur le programme, mais il me semble que nos amis Lenny Martinez et Romain oui. Grégoire font un énorme début de saison. Hein,
oui, oui, c'est vrai, oui. Mais oui, on en parlera juste un tout petit peu plus tard.
Ouais, voilà, c'est pour ça que je voulais pas te dire, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire après sur les Français. Quoi. Voilà.
Ouais, c'est vrai, on reste un peu sur notre fin, mais oui, il y a du bon qui arrive, on en parlera tout à l'heure, hein, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, je vous remets les résultats de la semaine là, qui viennent de passer juste en dessous pour que vous puissiez bien vous repérer dans le fil. Alors bien sûr, pour ceux qui nous écoutent en podcast, on dira les résultats à la fin de l'émission. Ensuite, on va passer…
C'est moderne, hein, c'est exceptionnel quand même, hein, ce qu'on arrive à faire maintenant. Sur Radio Merguez & Co, hein. Grâce à notre, je tiens à le dire parce que, voilà, on le dit pas souvent, hein, mais il faut le dire. Ça, c'est grâce à notre Elio qui a pris en main pour Barbecue Vélo le restream.
Arrête!
Qui note tout. Voilà, non, mais tu vas pas rougir parce que tu sais que c'est la vérité.
Arrête. Non, non. Mais j'ai eu un très bon maître.
Ben, Louis, oui, Louis Durole.
Ben non, toi, mais si.
Louis, surtout.
Aussi, mais toi aussi, c'est toi qui m'as accueilli tel un fils.
Et maintenant, le dieu, le futur dieu, c'est Antoine. C'est Antoine qui doit trouver, d'ailleurs, il faut aider-le. On se cotise. Mettez des petites pièces, là, parce qu'Antoine, pour le prochain barbecue vélo, doit se trouver un pseudo merguez. Et si c'était
exactement.
Vous. Et si c'était vous, chers auditeurs, auditrices de Barbecue Vélo, qui choisissiez le futur pseudo d'Antoine, je veux pas griller. Si tu as envie de choisir ton pseudo, tu le choisis, Antoine.
Non, non, au contraire, avec grand plaisir, c'est vous qui pouvez choisir.
Et oui, n'hésitez pas.
À la population, mon Elio.
Allez, petit appel à la population. N'hésitez pas dans les commentaires. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, ou n'hésitez pas à nous écrire, hein, radiomergazenco@gmail.com, si vous voulez participer à l'émission. Bien évidemment, on est toujours à la recherche de chroniqueurs pour l'émission, mais n'hésitez pas à écrire oui dans les commentaires du chat YouTube si vous êtes là, ou du chat des commentaires si vous écoutez la rediffusion. Eh bien, passons maintenant, on va se projeter un petit peu vers la France. L'unique monument qui a lieu en France, la reine des classiques, l'enfer du Nord, Paris-Roubaix. Et un nom revient encore une fois, c'est celui de Mathieu Van Der Poel. Alors, on va pouvoir les citer, ceux qui ont réussi à faire le doublé Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Les plus récents, Fabien Cancellara, Tom Bonnen. Rien que ça fait frissonner de se dire que VDP, déjà co-déteneur du record de victoire, et en plus, qui peut ajouter son nom dans l'histoire en faisant un doublé Tour des Flandres Paris-Roubaix, ça serait pas rien. Et il est le grand favori pour cette course. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis?
Vas-y, mon cher Antoine.
Non, mais je pense qu'on peut... Oui, c'est clairement le grandissime favori. En fait, la question maintenant, c'est qui pour battre, hein. C'est sûr que si Wout Van Aert avait été présent, on aurait peut-être misé une petite pièce sur Wout Van Aert. Et on aurait pu se dire, pourquoi pas, Van Aert crée la surprise face à Van Der Poel. Mais là, si on regarde le plateau, puis en plus de ça, je pense que c'est quand même à noter, mais aux côtés de Van Der Poel, on retrouvera Jasper Philipsen, qui avait quand même fait un très grand Paris-Roubaix, hein, l'année passée. Il avait, je crois qu'il avait terminé, si je dis pas de bêtises, deuxième, je crois, juste devant Wout Van Aert, c'est ça, deuxième. Il avait quand même fait un très très grand Paris-Roubaix, donc je pense que ce serait une aide très précieuse pour notre ami Van Der Poel. Il y aura également Cadet Groves à ses côtés, donc l'équipe clairement sera tournée autour de Van Der Poel. Mais Alpecin de Kuenin qui vient avec le premier et le deuxième de l'année passée, c'est quand même pas mal. Alors après, si on peut regarder les potentiels concurrents, ben, il y aura pas grand monde, hein. Alors on peut toujours penser à Alberto Bettiol, à Stéphane Koum aussi, pourquoi pas. Il y aura peut-être le retour de Christophe Laporte qui sera là.
Il a annoncé sur la.
Ouais, c'est ça. Dylan Van Baal aussi, un vainqueur de Paris-Roubaix en 2021, si j'ai pas de bêtises, avec Ineos.
Kasper Asgreen.
Comment?
Kasper Asgreen aussi.
Oui, Kasper Asgreen, c'est ça. Après, Kasper Asgreen, c'est moins en vue ces derniers temps. Pourquoi pas Nils Polite également? Oui, il y aura du monde, hein, Florian Sénéchal, c'est sûr. Il y aura des concurrents, mais qui pour concurrencer Van Der Poel? Pour moi, il n'y a pas grand monde. Hein. Honnêtement, si on regarde Lidl Trek, il y aura Mats Pedersen. Pour moi, c'est l'un des seuls qui peut vraiment rivaliser avec Van Der Poel. Il y aura également Jurgensen qui est prévu. Jurgensen sur Paris-Roubaix, pourquoi pas? Faut voir ce que ça peut donner. Mais clairement, oui, grandissime favori. Les noms seront là pour essayer d'aller chercher des places sur le podium. Mais pour essayer d'aller concurrencer Van Der Poel, pour moi, il y a personne.
Julio,
je pense que une nouvelle fois dimanche prochain, parce que je crois que c'est bien dimanche prochain. Hein,
ouais, c'est
je
ça.
Pense, hein, j'aurais pas de mal en tout cas à parier 10 euros sur une victoire de Mathieu Van Der Poel. Je pense qu'on n'aura pas de surprise et que Van Der Poel va gagner Paris-Roubaix, mais encore une fois tout est ouvert parce que voilà, c'est le sport, parce que tout peut arriver, parce que voilà, c'est un fer du Nord et on sait tout.
Oui, sur une chute, un problème mécanique, pourquoi pas.
Exactement, mais Antoine, je trouve que bah justement, on en vient finalement à parler de potentiels problèmes.
Exactement, c'est ça. Exactement. Ouais,
et de potentiels accidents qui.
Oui, c'est vrai,
De titre, un accident qui avait par exemple privé Philippe Ogagna de remporter Paris-Roubaix alors qu'il était tout proche.
L'année passée, la crevaison de Wout van Aert, quand même. Aurait pu assister à un vrai duel entre les deux et la crevaison du Belge.
Exactement. Donc, en fait, on en vient à imaginer un potentiel accident. Donc, ça en dit long sur la domination qu'inflige Mathieu Van Der Poel à ses amis collègues cyclistes. Donc alors je pense que le monsieur Mathieu Van Der Poel est très bien parti et est lancé pour l'instant vers ce Paris-Roubaix, son sixième potentiel monument, mais pourquoi pas Christophe Laporte? Alors je sais pas dans quelle forme il reviendra aussi.
Oui, c'est la grande interrogation, parce que franchement Van Aert ne sera pas là, moi j'ai envie de lui dire, mais c'est l'année ou jamais, quoi. Là, franchement, quel dommage qu'il ait été blessé quel dommage qu'il ait été blessé pour ses courses, quoi, parce que c'est l'année ou jamais.
Et moi, les amis, j'ai une question, parce qu'on se rappelle que Jasper Philipsen, deuxième de l'année passée, devant Van Aert. Et si on imagine le scénario où, dans les 15 derniers kilomètres, on se retrouve avec un Van Der Poel et un Philipsen? Côté le Pessin de Koenig. Comment ça se passe selon vous?
Van Der Poel, il va gagner normalement.
Il lui fait pas de cadeau. Franchement,
pour tout ce qui est. Si, bah justement, Philipsen lui fait un cadeau pour tout ce qu'il lui a fait.
Ah ouais?
Pour toutes les victoires sur le Tour de France, le Milan-San Remo, tu te rends compte? Van Der Poel, il aurait pu gagner. Là, il aurait pu faire un triplé.
Le premier monument de Philipsen.
Et Roubaix, quoi.
C'est ça. Mais... c'est pour ça que bon, on sait pas. Hein. Ouais, je sais pas comment. Ouais.
Comme Philippe, pas de bêtises, n'a jamais gagné de monument.
Non.
C'est aussi une question à se poser.
Ah, si, il vient de gagner San Remo, si.
Ah oui.
Oui, c'est vrai.
Bien sûr. Bah oui, bien sûr. Oui, donc ça change un petit peu la donne. Après, voilà. Et puis Van Der Poel est capable de battre Philipsen au sprint, hein.
Oui, bien sûr.
Je pense par rapport à ce qui se sera passé durant la course, la fatigue, tout ça, ça peut être aussi. Bon, après, c'est vrai.
Tu penses qu'ils terminent tous les deux sur la finale? Tu penses qu'ils sprintent?
C'est vrai. Non, mais t'as raison. T'as raison. C'est une question à se poser.
Non, mais après, c'est un scénario, hein, mais voilà, Philipsen quand même deuxième, donc on peut se dire, bon, bah, s'il n'y a pas Van Aert, ça se trouve, ça sera les deux plus forts, et puis à 10 km, ils seront tous les deux, quoi. Donc il faut, je sais pas.
Ouais, problème, mais t'as raison, t'as raison. Moi, j'aime bien quand même que quand il y en a deux coureurs de la même équipe qui se. À part quand il y a des très très belles histoires, il faut faire gagner l'autre.
Oui, oui.
J'aime bien qu'il y ait quand même un sprint entre les. Pour voir
oui,
qui
c'est meilleur de gagner.
Je sais pas, ouais, t'as raison.
Ouais. On verra.
Après, on parlait de Jorgensen. Alors, je parle avec les guillemets, mes doigts au-dessus de ma tête, hein. Mais avec des grands guillemets. Mais est-ce que Jorgensen, de par son profil, sera capable de résister sur les pavés de l'enfer du Nord? Je me pose quand même la question.
C'est un exercice nouveau, hein, Jorgensen, sur les classiques. Ouais.
Première participation pour Jorgensen sur Paris-Roubaix,
voilà. Mais voilà, c'est ça.
Après, Pogacar est capable de le faire, mais ça reste Pogacar.
Oui, mais Pogacar, c'est Pogacar. Voilà, c'est exactement ce que tu dis.
C'est ça. Donc, après Christophe, excuse-moi, moi, Lou, mais.
Oui, je t'en prie.
Mais, Christophe Laporte, ça peut être vraiment une belle carte pour les.
Ah,
pour les
moi, j'y crois, franchement.
Ouais, voilà, ça dépendra de la forme dans laquelle il arrive, mais. Mais franchement, mais ouais, c'est. Après, ouais, ça dépendra tellement du scénario de la course que. Ouais.
Et oui. Rappelons un petit peu l'histoire quand même, parce que moi j'aime bien aussi rappeler les moments historiques de cette course, hein, Paris-Roubaix. Le dernier vainqueur français de cette course, c'est Frédéric Guédon, qui avait remporté la course devant Joe Plunkett et Johan Museeuw. D'ailleurs, Johan Museeuw, recordman aussi. Co-déteneur du record de victoires sur le Tour des Flandres, 3 victoires. Et puis, si on remonte un petit peu aussi, il y a le doublé historique de Gilbert Duclos-Lassalle en 1992 et en 1993, qui gagne devant Ballerini en 93 dans un sprint épique sur le Vélodrome et qui gagne en.
Ballerini, c'est le père de son fils ?
Je ne sais pas, à voir. Et puis, bien sûr. Rappelons Marc Madiot aussi, Marc Madiot, le grand ouais. Marc Madiot qui a remporté 2 fois l'édition. Et puis, allez, encore pour les bons souvenirs, Bernard Hinault qui qualifiait cette course de merde, bien évidemment, qui l'a remporté le nez ensanglanté, qui était tombé et qui gagne avec le maillot de champion du monde devant le Vélodrome. Impressionnant, Bernard Hinault. Ça nous rappelle des souvenirs. On attend ce Français gagner Paris-Roubaix. C'est comme le Français... Partout, on attend le successeur. On attendait le successeur à Jackie Durand et puis là, à notre cher Frédéric Guédon.
Et puis, en parlant de doublé pour Van Der Poel, un éventuel doublé, il faut noter quand même que si Van Der Poel remporte cette édition 2024, on serait sur un triplé côté Pays-Bas avec la victoire de Van Baal en 2022, Van Der Poel en 2023 et 2024 Van Der Poel. Donc, quand même 3 vainqueurs néerlandais sur les 3 éditions et sur les 3 dernières éditions, on n'a pas vu ça souvent quand même, je pense. Hein.
Ouais, puis je trouve que t'as raison de le rappeler. Antoine, je trouve ça super intéressant parce que ça en dit long sur ce vivier. Et, bon, on sait que les Néerlandais sont des amoureux inconditionnels du cyclisme, mais ça met en valeur aussi des pays. Des pays qui sont fadas de vélo. Et il y avait eu un petit creux quand même du côté du cyclisme néerlandais il y a quelques années. Ça remonte déjà un petit moment. Et maintenant, ils sont de retour vraiment en feu. Il y avait déjà eu une petite remontée entre guillemets avec OK Mollema et puis maintenant Mollema et puis après derrière,
on peut également voir la victoire de Nicky Terpstra 2014 Paris-Roubaix, donc c'est pas si vieux que ça aussi, hein, donc, après moi ce que je me pose aussi, ce sera l'après Van Der Poel, parce que aujourd'hui on n'a pas vraiment de grosses pépites comme on peut avoir de mes connaissances, hein, mais en Belgique on a quand même des pépites et tout qui vont monter sûrement très fort, Arnaud Delis machin. Côté néerlandais, j'ai pas de noms comme ça qui me viennent de jeunes qui j'ai pas de noms comme ça en tête. De jeunes pépites néerlandaises sur qui ont brillé, j'ai pas de nom, faudrait peut-être que voir, peut-être que je me trompe totalement.
Mais... Avec toi, ouais, après ça peut venir comme ça, hein, mais.
En tout cas, ouais, côté record quand même, on est pas mal. Mathieu Van Der Poel a noté d'ailleurs sur les éditions, s'il gagne Paris-Roubaix ou fait podium, sur 3 participations en 3 années d'affilée, il aura réussi à faire 3 podiums. Et sur le Tour des Flandres, 5 participations, 5 podiums, quand même exceptionnel pour la part de Mathieu Van Der Poel, qui peut les exploser tous. Alors, celui de Vlaminck quand même et de Tom Bonnen va être compliqué à chercher, hein, parce que 4 victoires sur Paris-Roubaix, faut quand même le faire, parce que voilà, hein, c'est quand même assez compliqué d'aller chercher 4 victoires sur Roubaix, mais il en est capable. Il en est très bien capable.
Mais, alors attends, en fait, je viens de penser à quelque chose, de toute façon, je viens de dire une grosse bêtise. Si on regarde Olaf Koisch, il est néerlandais, hein, si je dis pas de bêtises.
Oui, oui.
Ah oui, donc j'ai complètement zappé. Donc excusez-moi, non, c'est vrai que non, j'ai rien dit. Le cyclisme néerlandais est encore présent. Non, j'ai une petite bêtise. Oui, j'ai complètement zappé. Mais si Olaf Koisch sera là pour la relève.
Ouais.
Bon, je pense qu'on aura fait le tour pour les classiques là. Waouh! Bien entamé, on a bien débriefé ces classiques. Et puis maintenant, on va se diriger vers la Catalogne et puis les Pays Basques. On va commencer rapidement par débriefer le Tour de Catalogne. Alors, ça va aller très vite, il n'y a pas eu de débat. Pogacar, quadruple vainqueur d'étape sur ce Tour du Catalogne. À noter quand même la victoire d'un Français, Axel Zinglet, si je ne dis pas de bêtises, qui remporte sa première victoire en World Tour. Et puis, la victoire aussi sur ce Tour du Catalogne, attendez, faut que je me souvienne, j'ai un gros trou de mémoire, excusez-moi les amis, sur la Vuelta à Catalogne, sur la première étape, Nick Schuld, voilà, la victoire de Nick Schuld sur la première étape, et puis après une domination sans partage de Tadej Pogacar, pas grand chose à dire les amis là-dessus.
Bah, je laisse la parole Julio si tu veux, comme tu veux.
Je vais te redonner, je vais te refaire une passe décisive parce que okay. J'ai pas suivi du tout le Tour de Catalogne.
Bah,
mis à part
Pogacar tout simplement sur une autre planète. Il a fait encore le début de saison stratosphérique, hein, victoire sur l'Estrade de Bianchi, 3e place de Milan San Remo. Donc il a entamé ce Tour de Catalogne en pleine confiance et puis il n'a pas déçu. Hein. Il a été tout simplement stratosphérique comme d'habitude. Il s'impose avec 3 minutes 41 secondes d'avance sur Mikel Landa, ce qui n'est pas rien.
Donc, 5 minutes sur Bernal.
Exactement. Alors, pour en parler et revenir sur Egan Bernal, c'est vrai qu'on l'avait un petit peu enterré, mais je trouve qu'il commence à faire son retour, n'empêche, hein, le Colombien.
Ah, tu vois, je viens d'y repenser. Tu vois, j'ai vu Egan Bernal, mais tu vois, ça m'a pas fait tilt. Ah ouais,
quand même, oui. Troisième place. Il fait son petit retour, le petit Colombien, c'est bien. Et puis, à noter que Pogacar, pour la première fois, ça sera sur le Giro d'Italia. Moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Alors, on verra si Wout van Aert va jouer le général, on verra. Mais oui, il sera bien là, Pogacar, avec une équipe qui sera là pour lui, également pour peut-être Molano. Mais oui, ça va être un Tour d'Italie très, très intéressant. Et pour l'instant, il est sur un autre monde. Hein. Vraiment, le Slovène, il est impressionnant. Il devrait participer à Liège-Bastogne-Liège. Je pense qu'il va participer, c'est même pas il devrait, il va participer le 21 avril. Donc, c'est tout simplement trop fort sur ce Tour de Catalogne. Ouais. Donc, voilà.
Et puis à noter, alors sur ce top 10, la présence, non pas de Joao Almeida 9e, mais la 7e place au classement général à 6 minutes 2.
Oui, c'est vrai.
De Lenny Martinez, qui n'est pas très loin d'Alexandre Vassov, qui est 4e. Grosse performance, en plus, qui ramène le maillot de meilleur jeune. Grosse performance.
Ah ouais, mais ouais.
Lenny Martinez à noter.
Bon, ouais, et puis Chris Harper 6e.
Oui. Ah ouais, c'est un bon résultat.
Qui confirme sa bonne forme du Paris-Nice.
Ouais.
Justement, j'ai parce que voilà, on en plaisante et tout parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des amis qui sont autant fans d'un coureur comme ça, mais mon cher Elio, on plaisante souvent autour de Joao Almeida, mais Qu'est-ce que, bah, comment t'imagines sa saison? Parce que là, voilà, je vois 9e du Tour de Catalogne. Je ne sais pas si on aurait peut-être pu imaginer il y a quelques saisons, on aurait peut-être attendu un résultat un peu meilleur pour Almeida, mais je ne sais pas dans quelle forme il arrive aussi. Donc, quoi, comment t'imagines un peu sa saison, ses objectifs, ses ambitions?
Je ne sais pas exactement quel va être son calendrier. Mais moi, sa saison, le problème, c'est que son objectif, ça, oui, il vient de l'annoncer, ça reste le Tour de France avec Pogacar, Ayuso, Yates. Ça va être quand même une sacrée équipe UAE, mais moi, je le vois mal peser dans les débats. Alors, si ça se trouve, on va me faire mentir, mais j'ai l'impression que les doutes que j'avais sur lui se persistent, hein, vu qu'il n'arrive pas à confirmer en haute montagne. Il a quelques difficultés à tenir le cap quand la route s'élève. Pas assez incisif, pas assez tranchant. On le voit peu à l'attaque. À part le contre-la-montre qui vient sauver en général ses performances, Joao Almeida, ça reste quand même assez faible. Malheureusement, c'est triste à dire, mais je pense que ça va être une saison un peu compliquée pour lui. Après, si ça se trouve, on va me faire mentir, hein, j'espère. Mais voilà, moi, je pense que ça ne va pas être la forme pour Joao Almeida.
Ouais, et puis pour rebondir sur ça, il devrait participer à la Flèche Wallonne, à Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Suisse après, donc comme l'a dit Elio, il devrait donc aller s'aligner sur le Tour de France. Mais je suis totalement d'accord avec toi, Elio. Quand tu vois un petit peu l'équipe côté UAE Team Emirates,
il n'y a pas de place.
Je me demande comment il va trouver sa place. On parle d'Tadej Pogacar, Adam Yates, quand même troisième, Juan Ayuso, grande pépite espagnole, et Almeida à 25 ans, première participation sur le Tour de France. Ça peut paraître un peu dingue, mais je crois que c'est sa première participation.
C'est sa première participation,
exactement. À 25 ans. Donc, puis après, il devrait enchaîner sur le Tour d'Espagne. Alors, on peut se demander aussi, est-ce que rester chez UAE Team Emirates, c'est vraiment le bon choix pour lui?
Moi, je pense que c'est la question. Il faudrait peut-être penser à changer d'équipe qui a besoin d'un leader, parce que aussi, cette position du leader aussi, alors, elle est peut-être compliquée à assurer, mais cette position du leader, elle est peut-être essentielle pour pouvoir assurer clairement son statut.
Parce que quand on voit la startlist côté UAE Team Emirates, côté Tour de France, mais clairement, si tu regardes un peu les leaders, Pogacar pour moi est au-dessus, Ayuso est au-dessus, et même pourquoi pas mettre un Damietz au-dessus, donc il serait le quatrième côté leader. Franchement, alors faudra voir, mais je pense que ça sera peut-être la dernière année chez Almeida. On verra en fonction de ses résultats. Alors peut-être qu'il va nous faire mentir et puis il sera devant Ayuso et Damietz sur le Tour de France.
On espère. Hein.
Ouais. Et puis à noter aussi que tu parlais contre la montre, Elio, mais il faut savoir quand même qu'Ayuso, dans l'épreuve du contre la montre, est loin d'être nul. Hein, donc, il ne pourra pas avoir vraiment gagné sa place de deuxième ou troisième leader sur ça. Pourquoi pas un éventuel rôle de leader sur le Tour d'Espagne, et encore, parce qu'il y aura Damietz. Donc, non, c'est vrai que c'est peut-être pas. En fait, c'est une équipe qui est tellement riche en leader, le Team Emirates, que pour faire sa place, c'est hyper, hyper compliqué. Alors après, si on devait parler d'une équipe où il pourrait vraiment avoir ce rôle de leader, mais c'est compliqué parce que si on regarde Movistar, il y a Enric Mas. Alors après, pourquoi pas Ineos Grenadier qui cherche encore ce leader. Il y avait Egan Bernal, il est plus là, donc il faudra voir ce que ça donne Egan Bernal. Pourquoi pas
Jayco,
il y a Simon Yates, alors il faudra voir. Mais
après, ou chez DSM, parce que DSM.
C'est
pas la grande forme, on va dire.
C'est pas la grande forme, et puis même, je regardais un petit peu sur les médias, beaucoup parlent même d'un dernier Tour de France pour Romain Bardet, donc ça peut être un choix pour lui. Alors, c'est une belle équipe, hein, franchement, côté DSM, et là, oui, contrairement à UAE Team Emirates, il sera clairement le leader numéro 1, donc à voir.
Bon, on a fait une petite dérivation, hein, bien sûr.
Joao
Almeida, c'est un plaisir de parler de lui. Ouais. Et puis maintenant, on va partir en Espagne, on va rester du côté de l'Espagne, mais plus dans la Catalogne, vers le Pays Basque, l'Itzulia Basque Country, avec sur cette course un plateau de favoris assez incroyable. Alors, pour ne citer que Jonas Vingegaard, Evenepoel, Roglic, Uran, Matthias Kelmoze, David Gaudu, Juan Ayuso, Isaac Del Toro, Brandon McNulty, Jay Vine, Mentiès. Waouh, ça en fout un coup, quoi. Ouais. Vous sentez les odeurs de Tour de France qui arrivent, quoi, qui sont pas ouais, très loin. Ah ouais. Parce que, alors, à déplorer, bien sûr, la non-présence de Tadej Pogacar, qui aurait pu se confronter à Vingegaard. Mais, ouais, il y a un sacré plateau. Qu'est-ce que t'en penses, Morlio? T'attends, il y a une grosse bataille hein, qui s'annonce hein, sur ce Tour du Pays
Basque. Ouais. C'est clair. Juste, que fait notre ami Poggi pendant ce temps-ci? Il se prépare un peu plus tranquillement de son côté pour le Giro?
Oui, je pense que c'est ça, oui.
Le Giro, il part quoi fin avril?
Voilà, bah oui, en fait, il n'a pas d'autres courses de prévues. Il a Liège-Bastogne-Liège de prévu le 21 avril, et puis le Giro qui sera en mai, mais il n'a pas d'autres courses prévues à son actif.
Ok, d'accord. Ouais, mais complètement, mon Lio. C'est toujours, je trouve, super intéressant. Enfin, toutes les courses sont super intéressantes. Mais de pouvoir jauger un petit peu déjà les coureurs sur ces courses-là, alors qu'ils sont souvent des courses de préparation quand même sur les grands événements, les grandes échéances. Il y a, tu l'as si bien dit, Liège-Bastogne-Liège qui se profile derrière, le Giro pour certains. Donc oui, c'est souvent des courses de préparation, mais voilà, si évidemment, il y a toujours aussi des points UCI à aller chercher, hein, évidemment. Oui. Il y a aussi des possibilités parfois de se mettre en valeur, gagner des étapes. Puis n'empêche, pour des coureurs qui ont peut-être un peu plus de difficultés à briller par la grande densité qui existe lors des grands tours, bah, c'est une bonne possibilité, je trouve, pour ces coureurs de pouvoir briller un petit peu plus sur des courses entre guillemets un peu moins prestigieuses, mais ouais, carrément, ça va être aussi, je trouve, intéressant de pouvoir suivre l'évolution de David Gaudu dans cette série.
Oui, ouais, exactement ce que j'allais dire. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, parce que c'est vrai que David Gaudu, bon, on place beaucoup d'attentes sur lui, mais bon, voilà.
Ah ouais, ça va être ouais, intéressant. Alors, je sais pas si
Gaudu qui sera aligné avec Romain Grégoire, mais pas Lenny Martinez.
Ouais, Romain Grégoire qui sera là. Donc c'est intéressant, hein, mais ouais, on verra tout ça.
Et puis tu parlais, Elio, tout à l'heure, je suis complètement d'accord avec toi, l'histoire du sport, je suis un immense passionné aussi de l'histoire du sport et du vélo. Bah là, tu vois, je suis sur un article de West France qui fait la preview de ce tour du Pays Basque, et bah, il nous rappelle les quatre coureurs tricolores qui se sont imposés sur cette épreuve espagnole. On a eu Francis Pélissier, qui a gagné la toute première édition, c'est marrant, ce Tour du Pays Basque en 1924. Ensuite, Victor Fontan était le prochain français en 1927. Maître Jacques Anquetil en 69. Et puis le dernier français à avoir remporté le Tour du Pays Basque, c'est Jaja en 90.
Delaberre qui avait fait deux, avant de remporter cette édition, qui avait fait trois podiums, trois deuxièmes places. Avant de remporter cette course, oui, effectivement.
Ok. Ouais, donc c'est voilà. Puis le dernier vainqueur en date, c'est Jonas Vingegaard, qui remet donc son titre en jeu, comme
on dit. Oui, exactement. Ancien vainqueur aussi présent, on attend sa confirmation, voir s'il est vraiment en forme. Et on
peut le dernier, le dernier,
ça aussi. Roglic, double vainqueur de l'édition.
Absolument, ouais. Puis ça va être intéressant aussi. Enfin, c'est encore une petite anecdote. Je crois bien que le dernier coureur à avoir fait le doublé, c'est Contador. Enfin, d'avoir gagné deux années de suite le
non. Ouais. Ah si, en 2008 et en 2009.
Il me semble. Ah, ça remonte. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais, okay. Et pour revenir sur Roglic, quand on regarde un peu la formation Bora-Hansgrohe, il sera bien entouré, hein, le Slovène Emmanuel Bourman, Jay Hindley, Bob Jungels, Maximilian Charman.
Pas d'Alexandre Vlasov pour lui mettre les bâtons.
Non, mais bon, il va quand même être avec le vainqueur du Giro d'Italia, le dernier vainqueur. Ça va, il y a pire.
Ah, puis alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais les gars, mais c'est aussi des courses je trouve, dans lesquelles on peut jauger un petit peu l'entente entre les coureurs.
Oui, exactement. C'est comme sur Paris-Nice, on a vu entre Roglic et Vlasov, c'était pas la mort fou, quoi.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Je trouve que, vous me dites si vous partagez mon avis, mais je trouve que avant, on avait quand même des équipes avec beaucoup de leaders dans une seule équipe. Et je trouve que voilà, le dernier mercato a éclaté un petit peu des coureurs.
C'est vrai.
On se retrouve avec des mecs, par exemple, comme Roglic à Bourg-en-Bresse, qui doit un petit peu pas partager le leadership, mais voilà, il y a des gars aussi qui étaient un petit peu leaders uniques dans leur formation respective et qui se retrouvent du coup avec des gros poissons avec eux. Donc voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir jauger un petit peu les ententes et les ambitions de chacun.
Et puis rester sur Primoz Roglic, il a fait qu'une course cette saison, c'est une 10e place au classement général, il a terminé 10e au classement général final de la course française. C'est pas un résultat exceptionnel, peut-être ce sera peut-être aussi une course pour rassurer, hein, parce que c'est ça, hein, parce que c'est vrai que bon, après c'est qu'une course, hein, certes, mais une 10e place, bon, ça n'a pas été un pari exceptionnel. Vlasov a terminé 5e, peut-être ce sera aussi un moyen pour se rassurer pour le Slovène, parce que c'est vrai qu'on attend énormément le duel Evenepoel, Vingegaard, Pogacar et Roglic sur la grande boucle, donc peut-être un moyen aussi pour se rassurer pour le Slovène.
Tiens, un petit mot, Elio, peut-être sur le parcours de ce Tour du
Basque.
Alors là, j'ai pas étudié le parcours. J'ai pas été bien sérieux avant l'émission, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu du classique.
Oui, non, mais tu as entièrement raison. On est
sur des courses d'une semaine, je vois que il y a des.
Une étape de haute montagne, c'est celle qui est entre Eibar et Eibar. La dernière étape avec plus de 3472 mètres de dénivelé. Et puis après, on a quand même des grosses étapes. Par exemple, l'étape entre Espelette et Alatsuta, Alatsua, 3057 mètres de dénivelé, 190 km. Un contre-la-montre pour la première étape de 10 km pour bien se mettre en jambes. Et puis une petite étape de plaine pour les sprinter puncher avec quand même plus de 2000 mètres de dénivelé, hein. Il va falloir bien passer les bosses, mais
ça peut être un parcours qui correspond je dis pas un peu plus à Roglic qu'à Vingegaard, hein, parce que Vingegaard,
oui, mais un parcours un peu plus punchy, oui, exactement,
voilà, c'est ça. Je pense que sur une semaine, en tout cas, il y a un petit peu plus de chances que Roglic puisse rivaliser si les deux sont à fond, quoi.
Ouais. Moi je pense quand même que le scénario sera que sur le contre-la-montre, les écarts ne seront pas énormes, mais je pense surtout que ça va se jouer dans la dernière étape, hein, pour moi. Avec cette étape entre Eibar et Eibar, je pense que c'est là où surtout les écarts vont se créer principalement, parce qu'il y a quand même 4-5 grosses côtes. Donc, je pense que c'est là où les écarts vont clairement se faire.
Oui, exactement.
Ça peut exploser aussi. Tout le monde peut jouer son ratou.
Nous verrons. Bon, petit point juste avant de terminer l'émission. Voilà, je pense qu'on est pas mal. On arrive petit à petit vers la ligne d'arrivée. On est dans la flamme rouge. Petit point sur le cyclisme féminin aussi. Avec la victoire, avec la victoire d'Elisa Longoborghini devant Kasian Evenema au sprint et devant Shirin Van Endroy, la néerlandaise. Derrière la légende, Marianne Vos, quatrième. Lotte Kopecky qui fait sixième. Sylvia Persico, septième. Demi Vollering pour la SD Work ne fait seulement que huitième. Elle qui s'est retombée coincée dans le Koppenberg à pied. Et puis à noter la belle performance de Victoire Bertrand chez Cofidis qui finit quatorzième, la française.
J'ai pas suivi la course, donc je pourrais pas vous dire grand chose, mais bon, je sais pas si toi, Julio, t'as suivi.
Justement, j'allais dire la même chose que toi.
C'était pour le petit point, voilà, mais
l'histoire
d'Elisa
Longoborghini. C'est bien, faut marquer quand même le point sur le cyclisme féminin, non, c'est une bonne chose, très bonne chose.
Tout à fait, ouais, c'est absolument essentiel. Et alors, est-ce que tu sais, toi, Elio, un petit peu comment ça s'est passé le final, comment Borghini a gagné?
Petit sprint à trois avec Shirin Van Enroy, Kasian Evenema et puis Elisa Longoborghini. Et Longoborghini a, a dominé le sprint. Marianne Vos était présente, elle a failli créer une nouvelle
fois. Ouais, quatrième.
Elle revient très très bien, Marianne Vos, avec Lotte Kopecky et Sylvia Persico dans sa roue. Demi Vollering, la championne du monde qui ne finit que huitième, qui a été coincée dans le Koppenberg.
Et grosse déception, j'imagine, pour Lotte Kopecky, parce que elle était quand même annoncée vraiment comme peut-être la favorite.
Avec Vollering, bien sûr.
Ouais, puis Borghini qui était vraiment aussi vraiment dans les grandes favorites, mais voilà, je sais pas si elle s'est fait, enfin si elle a eu un petit souci physique, Kopecky, ou si c'est simplement qu'elle a pas pris le bon wagon.
Je pense qu'elle a pas dû prendre le bon wagon.
Ok.
Bon, on va terminer cette émission par vos tops et vos flops de cette semaine. On va commencer par toi, Antoine, tes tops, tes flops de cette semaine.
Alors, sur toutes les courses, Tour de Catalogne
juste comme ça, tu choisis un flop et puis un top.
Moi, je pense que je vais commencer, je vais rester sur ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que c'est vrai que le Tour de Catalogne, tout ce qu'on a dit sur Pogacar, ça remonte un petit peu, et Vingegaard également. Donc bah, vraiment, pour rester sur ce qui s'est passé aujourd'hui, bah, je pense que vous voyez de qui je parle. Bah, je dirais, alors c'est pas un réel flop, hein, mais Valentin Madouas. Moi, j'en attendais plus, champion de France, et il visait la gagne, hein, il avait dit, il visait la gagne aujourd'hui. 16e, mais pour moi, c'est un petit peu un flop, parce que je m'attendais à mieux quand même du champion de France. Alors surtout que il y avait quand même des belles cartes à ses côtés, hein. Il y avait Stéphane Kuhn, il y avait Laurens Pitty là qui marche très très bien. 16e, ouais, c'est correct, hein, mais je m'attendais un petit peu à plus du champion de France. J'espère qu'il va quand même rebondir. Mais pour moi c'est mon petit flop. Alors on aurait pu dire par exemple aussi un Julien Lafilippe ou plein d'autres monde. C'est vrai qu'on attendait beaucoup, peut-être même trop, Valentin Madouas. Voilà, moi c'est mon petit flop. Et puis après, Mon top, moi je pense que je vais rester sur Luca Mozzato, clairement. Pour moi, c'est le top là, vraiment de ce Tour des Flandres. Deuxième, je pense qu'on ne s'en rend pas compte quand même, mais finir deuxième d'un monument, c'est quand même quelque chose. Il termine derrière Van Der Poel. C'est-à-dire que c'était le plus fort derrière Van Der Poel, c'est quand même assez exceptionnel. Et là, c'est vraiment le gros top. Hein. Je pense que personne n'attendait à ce niveau-là. L'Italien, il a fait une course. Là, je pense que ce soir, chez Arca, ça va être la fête, parce que deuxième, c'est vraiment un super résultat sur le Tour des Flandres. On va voir comment ils vont se débrouiller sur Paris-Roubaix. Il y aura Florian Sénéchal. Moi, j'ai très hâte de revoir Florian Sénéchal sur Paris-Roubaix.
Il y avait des grosses
ambitions. Et je pense qu'il peut vraiment aller chercher, claquer un résultat, hein, Florian Sénéchal. Donc, mais pour moi, c'est clairement le gros top, vraiment. Luca Mozzato, deuxième. Ouais, c'est super. Franchement, je sais pas ce que t'en penses, toi, Rulio, mais pour moi, c'est vraiment le top d'aujourd'hui, c'est Mozzato.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, je pense que, j'hésitais entre Mozzato, Morgado et nos amis de deuxième, de derrière, 13e et 14e, Raïl Chilan et Camille Maleki. Mais voilà, pour changer un petit peu, t'as parlé de Mozzato, je vais dire Antonio Morgado.
Oui, c'est vrai.
Merci, mon Rulio, merci, viva le Portugal.
Ouais, pour sa 5e place, parce qu'il a 20 ans. Terminé,
oui, top, ouais, 5, c'est vrai qu'on se rend, ouais, c'est vrai qu'on se rend peut-être pas compte, ouais, c'est vrai que
d'un tour des Flandres, c'est quand même extraordinaire.
Ouais, c'est vrai.
Je vais choisir Antonio Morgado, mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
T'inquiète.
Par rapport à Luca Mozzato, j'hésitais aussi. Et voilà, même s'il me semble qu'on a dit que Riley Sheehan, il était un petit peu plus, il avait 26 ans, je crois, on a dit. Hein. Il me semble.
Alors attends, je crois 26 ou 23, si je dis pas de bêtises. Je vais dire ça tout de suite. Rulio, 23 ans, c'est ça, 23 ans américain.
Ah d'accord, ok, non, je dis des bêtises, mais. Voilà mon top.
Et ton flop top,
c'est difficile à dire. Je veux pas être. Je veux pas être.
Pedersen.
Je veux pas être pénible avec les Français, mais c'est c'est pas un flop, mais c'est une déception. C'est,
oui, c'est vrai, c'est plus le voilà. mot. C'est plus le voilà, mot, c'est vrai.
C'est ça pour nos Français, parce que ouais, forcément, on en attendait, on espérait plus, mais rendez-vous sur Paris-Roubaix.
Ouais. Bah, écoutez, pour moi, ça va être très classique. Mon flop, c'est clairement Mats Pedersen.
Ah oui.
Malgré la grosse performance, on a vu qu'il était quand même solide parce qu'il a tenu, mais stratégiquement, c'était mauvais. Donc moi, je mets Mats Pedersen. Je pensais qu'il pouvait faire mieux, au moins jouer le podium. Et puis mon top, je dirais Lenny Martinez, qui m'a impressionné lors de cette Vuelta à Catalogna. J'ai hâte de voir la suite pour lui, mais je dirais que c'est mon top. Ah,
Il monte en puissance, hein. Il est impressionnant. À 20 ans seulement, et c'est vrai qu'il ouais, est en train de. Bah, clairement, il joue avec les meilleurs en haute montagne. Hein. C'est impressionnant ce qu'il fait. Bah, déjà, l'année passée, ce qu'il a fait sur le Tour d'Espagne, bah, on en attendait hein, clairement des Romain Grégoire et de Martinez. Mais c'est vrai que cette année, il est surtout en train de confirmer. C'est exceptionnel ce qu'il fait. À 20 ans seulement, c'est impressionnant. Et puis, je pense que, alors je sais pas, mais je pense que tu te fies Elio sur son tour de Catalogne. Il a quand même terminé 8e hein, des Strade Bianchi. C'est pas rien quand même.
Oui, aussi, oui, bien sûr. Et puis,
c'est un excellent
sur
résultat.
Sur le Haut Grand Camino aussi, il finit 2e.
Oui,
derrière.
Exactement. Derrière exactement. Oui, aussi, Donc, oui, c'est des gros, très gros résultats. C'est des très gros résultats. C'est impressionnant. Puis 20 ans seulement. Donc, ouais, je pense que c'est un gamin à suivre hein, parce qu'il est très, très prometteur. Et c'est vrai que Lenny Martinez, faut suivre. Alors, il a annoncé encore une fois sur le Tour d'Espagne. On ne devrait pas retrouver Lenny Martinez sur le Tour de France. C'est dommage parce que je pense que pour David Godu, ça aurait été une aide précieuse. Bon, à voir. Mais alors, petit gabarit.
C'est bien de le voir sur le Giro, peut-être, parce qu'il n'y a pas, pas une énorme.
C'est vrai qu'on aurait pu penser. Ouais, très bonne idée. On aurait pu penser à ça. Mais oui, petit gabarit, 1,68 m, 52 kilos, il est bluffant en haute montagne. Hein, donc, à voir. Alors après, je pense que pour jouer encore, si on vraiment veut s'intéresser sur tout ce qui est classement général, pour moi, c'est encore un peu juste, peut-être niveau contre la montre.
Il y a une chose qui est assez énervante. Alors on va conclure là-dessus avant de terminer l'émission. Mais il y a une chose qui est assez énervante avec les coureurs français, c'est qu'on leur met. Alors il y en a certains, on leur met la pression à juste titre. Par exemple, là, sur le Tour des Flandres, Madouas, on était en mesure d'exiger. Mais à certains Français, il faut arrêter de leur mettre la pression comme ça.
Oui, c'est vrai.
Parce que, on attend le successeur, mais c'est ce qui s'est passé avec Pinot et avec Bardet. On s'est tout de suite enflammé, on s'est dit, oh super, ça y est, on a enfin qui va gagner le Tour, un grand Tour, tout ça. Mais justement, arrêtez de leur mettre la pression, les journalistes, tout ça. C'est pas la peine, ça sert à rien.
Non mais c'est vrai. Alors après, je pense que quand tu vois un peu ce qui se passe actuellement et tout, surtout au niveau du Tour de France, je pense que le successeur, le futur vainqueur français du Tour de France, faudra encore attendre quelques années parce qu'avec les deux monstres Pogacar et Vingegaard, je pense que c'est pas là où on aura vraiment le futur vainqueur du Tour. Mais comme tu le dis si bien, je pense qu'on peut jouer vraiment la gagne sur un des trois grands tours dans quelques années.
Mais oui, voilà.
On citait le nom de Lenny Martinez, mais on peut également penser à Kevin Vauclin. Hein, il a 22 ans, il est intéressant comme coureur, 10e de Tirreno Adriatico. Donc on a des cartes, hein, c'est pas voilà, on pas de talent, ça c'est sûr. Maintenant faut trouver quoi, mais bon. C'est sûr que si on part sur un Pogacar qui s'aligne sur le Giro, un Pogacar sur le Tour et un Vingegaard sur le Tour d'Espagne. Ouais. Bon, voilà, ça complique la chose, mais bon.
Ça dit, c'en est possible, mais tout est possible.
Voilà. Bon.
Bon. Eh bien, je pense que là, on en a terminé, mon Rolio. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter?
Je vous aime, tout simplement. et que j'étais ravi de fêter le 300e barbecue de l'histoire de Radio Mergazenco. Les pétards, les confettis, il y a tout là, voilà.
Merci tout plein à toi d'avoir été présent, mon Rolio, hein, mon camarade de toujours qui coanime parfaitement avec moi le groupe de barbecue vélo, et merci d'être venu. C'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous.
Plaisir partagé.
Mais content de t'avoir rencontré, Rolio aussi, hein, parce que je connaissais un petit peu Elio, moi Rolio.
Ouais, c'est un plaisir partagé aussi, vraiment.
J'espère que j'étais à la hauteur, bon.
Parlons-en, merci.
Il n'y a pas à être à la hauteur ou pas à la hauteur, il y a à être toi-même et avec ta passion du vélo. Et
c'est ça.
J'ai l'impression que tu as été toi-même, donc C'est formidable et bienvenue dans la grande famille de Radio Merguez.
Merci. Merci
un
beaucoup.
Un grand plaisir de pouvoir partager ça.
Ouais.
Ouais, merci à toi, Antoine, d'avoir été pour cette belle émission, pour ta première.
Donc c'est
on rappelle un petit peu ta chaîne YouTube. Elle est dans le chat de Radio Merguez, de Radio Merguez & Co. Je la remettrai dans la description du live. Mais c'est Tour des Alpes A.mcycling.
Exactement.
TOURDESALPES .mcycling. Voilà pour ta chaîne YouTube.
Et petite question personnelle, toi, Julio, tu fais des choses à côté ou pas? T'as une petite chaîne pour savoir comme ça? Parce que je sais qu'Elio.
Ah, il va nous parler du Team Chambé, bien sûr.
Bien évidemment. Non, juste avant, mon Antoine, alors pourquoi Tour des Alpes dans le. C'est le nom de ta chaîne, hein, c'est ça?
Tour des Alpes, alors c'est pour faire référence, alors je sais pas si vous connaissez au youtubeur Le Tour d'école, qui m'a inspiré. Je voulais faire un mix entre le Tour d'école, donc j'ai mis le Tour des Alpes, A.m. Antoine Moyon, puis cycling pour la passion, quoi.
Oh mais super, génial. Ouais.
Un petit clin d'œil à Le Tour d'école. Bon, c'est dommage qu'il a arrêté ses vidéos, j'aimais beaucoup, mais bon,
ouais, moi aussi.
C'est comme ça.
C'est magnifique.
Et puis Moyon, parle-nous un petit peu de ton.
Ah ouais, vas-y. On écoute.
Non mais mais alors moi je suis allez Chambé ici Chambé oui ah oui non mais je suis encore en études, je suis en troisième année de licence sciences sociales à Lyon, voilà, donc toujours à la fac tranquillement on a la chance de vibrer toute l'année aux côtés de la team Chambé sur France Bleu Pays de Savoie. Je co-anime 100% Team Chambé du coup sur France Bleu Pays de Savoie le mardi.
Ah, intéressant.
Arrête de faire le modeste, va.
Bah non, mais c'est
énorme.
C'est comme ça et du coup voilà, on est à fond derrière la Team Chambé et avec le handball, quoi, voilà, un immense.
C'est bien. Le handball, je suis moins par contre, mais ouais, super,
ouais,
bah, super intéressant.
On peut tout faire, donc. Fada de handball depuis du coup le lancement de l'émission il y a 2 ans, mais c'est pour ça que j'ai un peu moins de temps malheureusement de suivre le vélo, mais voilà, vous me redonnez la patate et l'envie de rechausser les
et ben en tout cas je te remercie encore vivement, hein, mon Julio, d'avoir été présent. Franchement, toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, et puis je vais vous remercier à tous pour cette 300e émission. Quel plaisir, moi qui ai rejoint l'aventure Radio Merguez & Co en cours de route, bah, ça en fait des émissions, ça en fait des barbecues. Et vous savez que rien ne serait possible sans vous. Et c'est toujours un plaisir de savoir que vous nous écoutez au quotidien. C'est un plaisir. D'ailleurs, n'hésitez toujours pas, hein, si vous voulez rejoindre l'émission. Alors, il n'y a pas que barbecue vélo, il y a barbecue foot, barbecue basket avec Arnaud, barbecue F1, barbecue rugby, bien sûr. Voilà. Donc, on est une grosse équipe autour des barbecues. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous contacter, hein, radiomergazenco@gmail.com si vous voulez devenir chroniqueur. Et puis, bah, remercier toute l'équipe, hein, toute l'administration.
Merci, ouais, c'est vrai.
Remercier toute l'administration de Radio Merguez & Co pour cette 300e. Alors, pour les citer tous, Jean, Hugues, Alexis, bah, Arnaud, et puis bien sûr toi, mon Julio. Et puis le patron, Louis Droul. Ah oui. Louis Droul, comment ne pas le citer, Thomas Leclerc. Merci à lui, hein, de nous faire confiance à l'animation. On remercie vraiment toute l'équipe de Radio Merguez & Co. pour cette 300e émission. C'était un plaisir,
juste mon Elio, si je peux me permettre, Antoine, pour que Antoine se présente un peu plus à nos amis merguezeurs. Tu es un passionné de vélo, vraiment.
Exactement.
Avec ta chaîne, tout ça, c'est génial. Et tu es en études à côté encore, tu es encore jeune.
Je suis en seconde.
Ah ouais, d'accord, ok.
Donc très très loin des études encore, ça va arriver, hein, mais pour l'instant je suis en seconde, et puis voilà, je suis le vélo un petit peu à côté, Alors, j'essaie d'être présent, c'était la première. Alors, ce qui est compliqué, c'est surtout au niveau des horaires. Mais là, c'est bon, vu que demain, c'est férié, j'ai réussi à caler un petit créneau. Puis, c'était super, super intéressant, super génial.
Ouais, et de quel coin, dans
la Bretagne.
Ou pas Ah ouais, donc j'imagine que le succès de d'Arkea
BNB. Ah oui, en effet, très content pour cette équipe, non, vraiment super content. Alors j'avais une question, alors peut-être un peu voilà, mais quand on dit Radio Merguez, c'est-à-dire que c'est diffusé sur une chaîne radio? Non.
Alors non, c'est pas diffusé sur une chaîne radio.
Ok, on est d'accord. Non, parce que j'avais une question.
Mais en fait, voilà.
On t'a piégé, on était en direct sur RMC.
Ok, c'est une question juste pour ça, une petite interrogation. Ok. Bon, 1h30, pas mal. Ouais.
On était en direct sur YouTube ?
Et oui, bien sûr, en
direct. Oui.
Salut YouTube.
En tout cas, voilà, je vais le redire, mais merci à vous qui nous écoutez en podcast, sur YouTube, partout. Merci à vous de nous écouter. Et encore un grand merci à toute l'administration Radio Merguez & Co. Je les ai cités. Merci à toi, Antoine, et merci à toi, mon Mario, qui m'a accompagné, mon formateur, mon maître, mon mentor, tout ce que vous voulez.
Les chevilles qui gonflent.
C'était un plaisir de faire cette 300e émission avec vous. J'espère que vous profiterez bien. Et puis, n'hésitez pas à partager à tous vos amis, faire connaître Radio Merguez & Co, franchement. Et c'est un plaisir de savoir qu'on est de plus en plus écoutés. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée,
Merci,
très bonne semaine. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, le débrief de Paris-Roubaix.
On a hâte.
Surtout, c'était Monsieur Julien Lafilippe pour vous servir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, très bonne week-end, bonne semaine. Joyeux spectacle. Ciao!
Ciao!
Vive vidéo!